Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Prune 92 FM dans l'émission Access, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, de midi à 13h. Donc Access, c'est l'émission inclusive qui parle des personnes responsables de lieux ou d'associations qui proposent des événements accessibles à tous et toutes, personnes valides et personnes en situation de handicap. Je vous présente l'équipe qui compose cette émission. Donc à la réalisation, il y a Nelson. Nelson, bonjour.
Bonjour.
Pour co-animer cette émission avec moi, il y a Alice. Alice, bonjour.
Bonjour Anthony, bonjour Nelson, bonjour à tous.
Et comme du 28 au 31 mars, ce sera la 37e édition du festival Handiclap. Et oui, déjà, donc nos invités, il y aura donc Guillaume Brochet qui est coordinateur du festival Handiclap. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Il y aura aussi donc Cyril Trochu qui sera artiste au festival Handiclap dans le projet Oculus dont on parlera tout à l'heure. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Et puis, il y a aussi donc Léa qui est chargée de public et de médiation, de public et médiation à l'espace Sainte-Croix pour le projet Oculus dont on parlera tout à l'heure. Donc l'interview va se passer. Alors je vous présente le sommaire de l'émission. Donc Guillaume va nous présenter dans un premier temps le festival et on va lui poser plein de petites questions sur sa fonction sur le festival Handiclap. Ensuite, Alice interviewera Léa et Cyril pour le projet Oculus ainsi qu'avec Guillaume. Et donc ensuite, Alice continuera avec sa chronique, sur les Battle Hip Hop Sessions. Des personnes non-voyantes sont allées voir les Battle Hip Hop Sessions le 2 mars. Alors comment on assiste à des battles de danse quand on est non-voyant? Donc Alice nous parlera de ça juste après l'interview. Donc on va commencer avec l'interview de Guillaume. Bien, Guillaume, merci d'être avec nous. Alors Guillaume, peux-tu nous présenter la page et ta fonction à la page?
Oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je me permets juste un petit truc parce que je suis un fidèle de Radio Prune et j'ai envie de leur souhaiter un joyeux anniversaire car je sais que c'est l'année des 25 ans. Voilà, je ferme la parenthèse, mais joyeux anniversaire Prune. Alors, je suis donc le coordinateur du festival Handiclap. Le festival Handiclap a été créé il y a 37 ans et toujours aujourd'hui porté par l'APAGE 44. Donc APAGE qui signifie Association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique. L'APAGE est née comme les grandes associations dans le secteur du médico-social dans les années 70. Et très tôt, ici à Nantes et en Loire-Atlantique, l'APAGE a décidé de créer ce festival qui est moins unique qu'il a pu l'être, mais qui est toujours encore quelque chose d'à part. Avec la volonté de créer un festival artistique et culturel ouvert à toutes et tous, pour tout le monde, avec quand même au cœur de la préoccupation du festival l'accessibilité de l'offre culturelle et artistique à toutes les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui aussi, on porte de plus en plus une attention particulière en direction des artistes en situation de handicap qui sont de plus en plus nombreux à pouvoir percer, et c'est tant mieux, mais pour qui le chemin et le cheminement est encore long et compliqué, on va pas se mentir. Donc voilà, le festival c'est un festival avant tout, donc c'est aussi un moment de fête et de convivialité autour de ces valeurs d'inclusion, de mixité, d'accessibilité.
Et Guillaume, peux-tu nous présenter le festival Handiclap et sa programmation?
Oui, tout à fait. Alors donc le festival, comme tu l'as dit Anthony, aura lieu cette année du 28 au 31 mars. Je fais une petite parenthèse parce qu'on va avoir ce que j'ai envie d'appeler un apéro, un before du festival. Ça aura lieu le samedi 16 mars à 17h au Musée d'Art, en partenariat avec le Musée d'Art et le TU Nantes dans le cadre du festival du TU Nantes qui s'appelle Idéal, qui est un festival lié à l'art et à la recherche. C'est une conférence chorégraphiée qui s'appelle Regard par transparence. C'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition du musée qui a lieu en ce moment, qui s'appelle Prière de toucher l'air et la matière, qui est une exposition tactile. Cette conférence est née de la rencontre entre un chorégraphe contemporain, Jonas Chérault, et Valérie Castan, qui est un petit peu une des personnes incontournables en France de l'audiodescription en danse contemporaine. Jonas Chéreau n'avait jamais fait d'audiodescription dans ses spectacles et il a découvert cette pratique et ça lui a fait beaucoup réfléchir. Jonas est voyant et avec Valérie, ils se sont dit mais l'audiodescription, c'est quand même fascinant. C'est fascinant pour tout le monde, au-delà de la question de la compensation quand on est une personne mal ou non-voyante. Le fait de raconter la danse, qui est quelque chose parfois difficile à raconter la danse, qu'est-ce que ça procure ? Qu'est-ce que ça procure ? Qu'est-ce que ça nous fait naître comme imaginaire, etc. Donc ça, ce sera avant le festival, le samedi 16 mars à 17h au Musée d'Art. Et puis après, donc, le festival commence le 28. C'est un festival pluridisciplinaire, musique, théâtre, danse, avec une particularité cette année, avec de plus en plus de partenariats. Voilà, le festival tisse de plus en plus de partenariats avec des acteurs culturels nantais. Et c'est très, très, très enrichissant. Donc, tout à l'heure, on passera la parole à Léa et Cyril, mais c'en est un bon exemple. C'est un partenariat avec le Passage Sainte-Croix. Et l'ouverture du festival aura lieu non pas sous les traditionnels chapiteaux, parce que je peux peut-être le préciser que le festival a lieu sous chapiteaux, au niveau de l'esplanade des Traceurs de Coq, c'est-à-dire sur le chemin de passage de l'éléphant. L'éléphant vient régulièrement nous faire coucou. Le concert d'ouverture aura lieu à Trempeau, donc il y a 20 mètres des chapiteaux, à l'arrière des nefs. Donc Trempeau qui est un espace d'émergence musicale en musique actuelle et un espace d'accompagnement aussi. Et là, on aura une soirée concert avec trois groupes, avec une audiodescription proposée par Pick Up Productions, par Jérémy Tourneur, qui est incontournable. Et ce sera autour d'une programmation hip-hop, électro, rap, avec notamment comme tête d'affiche, et j'en suis très 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 heureux, le groupe Chuller's Division, qui est un groupe de rap qui vient de Bruxelles, qui est un groupe composé de 5 personnes, dont les deux rappeurs, les deux MC comme on dit, sont deux personnes en situation de handicap. Ils sont passés notamment par le dispositif Label Brut Pop, qui est un dispositif qui accompagne les musiciens dans leur parcours de professionnalisation, les musiciens qui seraient en situation de handicap psychique ou cognitif. Et c'est notamment le label par lequel est passé le groupe Astéréotypie, qui aujourd'hui est très connu et cartonne. Voilà. Donc ça, ça va être une très très chouette soirée, trois concerts à Trempeau. Je ne vais peut-être pas tout détailler. Tu me connais, Anthony. Si tu me laisses la parole, je peux parler très longtemps. Mais après, le vendredi, donc, nous aurons le soir, le concert du soir, nous aurons un groupe régional, Léonie, qui est pareil, un groupe qui fait beaucoup parler de lui, qui cartonne, qui vient tout juste de sortir un clip vendredi dernier. Donc Léonie est un groupe, un trio originaire des Sables d'Olonne qui propose une surf pop très festif, très estival, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu une bande-son des vacances d'été. Et on a hâte que ce soit l'été. Le samedi, là, on commence. Donc, le samedi et le dimanche, on a une programmation à la journée dédiée notamment un peu plus au spectacle vivant. Le samedi matin, on innove avec une proposition méditative et de relaxation, puisqu'on propose un bain sonore. Il n'y a rien à faire, il y a juste à s'allonger dans un transat et à rentrer un peu dans un espace de détente. Et le bain sonore est animé donc par une artiste tatoueuse, par ailleurs, Émilie Vassé, qui manipule les bols tibétains. Donc ce sont des bols qu'on fait résonner, on garde une note et voilà, ça nous fait nous détendre. L'après-midi, on accueillera le spectacle Les Atypiques. C'est la deuxième année que cette compagnie vient au festival. C'est une compagnie basée à Bordeaux qui crée tous ses spectacles en bilingue, en français parlé et en langue des signes française. Donc là, Les Atypiques, c'est une création originale. C'est une série de portraits d'enfants dits atypiques. Mais en réalité, tout le propos du spectacle est de dire tous ces enfants sont finalement tout à fait normal dans leur caractère atypique. Donc le spectacle est dit en français et signé. On aura ensuite, parce qu'on a pas mal de dessins cette année, c'est assez étonnant comme proposition, on aura un concert dessiné. C'est, ça s'appelle Dans la jungle. Le concept, c'est qu'on a un trio de musiciens qui viennent plutôt du jazz, qui jouent de la musique en live. Et pendant qu'ils jouent en live, on a un dessinateur qui va faire du dessin en live pour venir évoquer une ambiance de jungle. Voilà, c'est presque un conte musical est dessiné autour de la jungle. Hein,
Mais c'est dessiné sur papier, c'est dessiné comment?
C'est dessiné sur papier, absolument. C'est dessiné sur papier, puis il y a une caméra qui va vidéoprojeter en direct le dessin. Les musiciens reprennent des standards de jazz, notamment un peu de Duke Ellington, mais en venant avec leurs instruments s'amuser à faire des bruits d'animaux, par exemple, en venant un peu copier les bruits d'animaux. Là, je passe très vite puisqu'on va en parler plus en détail, mais à 19h, il faudra s'échapper des chapiteaux pour aller en centre-ville au passage Sainte-Croix, aller assister à Oculus, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Et puis, parce que c'est un peu sportif, ça y est, Andit Lap, on rayonne dans toute la métropole maintenant. Le soir, on revient au chapiteau avec le dernier concert du week-end, Bob's Not Dead. Alors, Bob est un chanteur punk. Il est solo avec sa guitare et sa boîte à rythme. Et il s'inscrit dans une tradition de la chanson un petit peu contestataire, slash humoristique, slash revendicative. Il est très inspiré par le Renaud des débuts. Hein, il l'assume complètement. Donc, on est dans un chanteur à voix, enfin un chanteur à texte plutôt, excusez-moi, très inspiré du punk. Le dimanche matin, il se trouve que c'est le dimanche de Pâques, donc le dimanche 31, on organise avec l'association Constellation, qui travaille avec des familles et des enfants en situation de handicap, on organise une chasse aux œufs de Pâques. Voilà, pour les gourmands et les gourmandes. Alors c'est quand même plutôt pour les enfants, mais bon. S'il y a du reste, hein, on pourra partager le chocolat. Donc je suis très très content de m'associer avec cette association qui traditionnellement propose une chasse aux œufs pour les familles tous les ans, et ils ont décidé de venir la faire avec nous cette année au Festival Andit Lap. Il y aura des animations sur place, dont un orgue de barbarie, donc ça je suis très content parce que les orgues de barbarie ça a un peu disparu. Et l'après-midi, nous aurons donc une pièce de théâtre qui s'appelle « On ira tous en Argentine », qui est le résultat d'un travail mené à l'année par un metteur en scène professionnel et une compagnie qui s'appelle Artisanat. Artisanat, c'est un atelier de théâtre basé à Nantes-Sud qui associe des résidents du quartier Nantes-Sud et des adultes en situation de handicap. C'est l'atelier de théâtre un peu de la Maison des Confluences. Et là, ils ont créé une pièce personnelle, hein, c'est une création originale. Il se trouve que c'est le portrait de Nantais qui ont l'habitude de se retrouver dans le bistrot de quartier et qui, de fil en aiguille, décident de tous aller vivre en Argentine au moins un temps pour profiter du soleil et de la joie de vivre. À 16h, ce sera suivi d'un spectacle en chanson. Donc c'est un spectacle chanté par la compagnie Madame Suzy. Le spectacle s'appelle Petite. Ce sont que des textes originaux qui racontent l'histoire d'une petite fille qui a décidé de s'émanciper, d'être libre, de s'affirmer dans la vie. Et on finira par un projet peut-être que vous connaissez, un peu connu des Nantais, le Catch Kids Club. Le Catch Kids Club, c'est la version enfant d'un projet qui a 18 ans à Nantes, puisqu'ils vont fêter leurs 18 ans au mois d'avril. Le catch de dessinateurs à moustache, c'est-à-dire que ce sont des binômes de dessinateurs et dessinatrices à qui on donne des thèmes imposés, qui s'affrontent pendant 5 minutes. Le public vote pour le meilleur dessin. Alors, il existe une version adulte, très adulte, qui a déjà fait deux fois le...
Mais ça, du coup, ça veut dire qu'ils dessinent
sur du papier.
Il y a un jury qui vote après.
Voilà, c'est le public qui a amené à voter.
Ah oui, parce que quand j'ai vu ça dans le programme, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est le catch dessiné? Mais je me demandais ce que c'était.
Alors, pourquoi catch? Parce qu'ils sont déguisés en catcheurs, il y a un ring sur scène, ils font semblant de se battre. Une version adulte existe, qui a même fait deux fois le Hellfest. Et depuis un an, ils ont créé une version enfant. Alors, moi, je l'ai vu, c'est une version enfant tout à fait accessible aux adultes aussi. Hein, on s'amuse beaucoup. Mais ce sont les enfants qui votent, ce sont les enfants qui donnent les thèmes. Les adultes sont priés de céder la place aux enfants. Voilà, je crois que j'ai fait un grand tour. J'ai oublié de dire que tout au long de la journée du samedi et du dimanche, il y a des animations gratuites sur le site du festival, notamment avec Micro Circuit, qui sera une radio éphémère, un trio qui s'appelle le Sensationnel Major Hut. Et puis pour finir aussi dire que Andit Lap, c'est aussi une exposition qui commencera dès le 19 mars. C'est une exposition qu'on fait en partenariat depuis des années avec la Maison des Hommes et des Techniques, qui est juste en face des chapiteaux. C'est le lieu d'exposition de l'histoire des chantiers navals de Nantes, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est une exposition où on valorise le travail fait tant par des artistes individuels que le résultat d'ateliers menés en établissements médico-sociaux. À titre d'exemple, l'IME Val-Laurie, qui est basée à Saint-Herblain, travaille actuellement avec l'association Pick Up, donc, hein, dont Alice va peut-être parler tout à l'heure, puis c'est eux qui organisent Hip Hop Session, autour d'un atelier d'art plastique. Ouais, là, je crois que j'ai fait un bon tour.
Ah oui, c'est vrai que c'est un programme très riche, vraiment, avec pas mal de, beaucoup d'événements. On va, vraiment, il y a de, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tous les goûts des expos, des concerts, vraiment, pour la famille, pour tout le monde. C'est vraiment très, 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 très inclusif, très bien. Et du coup, comment sont choisis les groupes, concerts, expos
Alors, bah, y a une veille hein, à l'année. Moi, j'écoute pas mal de groupes, j'essaye de repérer, je l'ai dit. À mon endroit et le festival, il nous paraît important de porter une veille particulière, une attention particulière pour les artistes professionnels qui seraient en situation de handicap. Qu'on s'entende, je ne programme pas un artiste parce qu'il est en situation de handicap, mais bien entendu que si le festival ne fait pas cette démarche d'attention particulière. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour un artiste d'émerger quand il est en situation de handicap. Et par exemple, le groupe Shooters Division, ça fait un an et demi que je pensais à eux. Après, c'est un groupe basé à Bruxelles, donc c'est aussi parfois parce que le festival a des moyens, a des bons moyens, mais des moyens limités. Et là, l'opportunité est née du fait que Trampo voulait aussi les programmer. Donc c'est une super rencontre, ça nous a permis à deux structures de faire, et puis de faire une plus grosse soirée, de proposer trois groupes et d'inviter ce groupe qui fait parler de lui depuis plusieurs années. C'est un peu le même cas d'ailleurs pour le projet Oculus, parce que je sais que Cyril m'avait contacté, Panonica m'en avait parlé, maintenant je connais la nature du projet, nous on est sous chapiteau, c'était pas idéal. Quand le passage Sainte-Croix m'a proposé le projet, j'ai dit banco. Donc voilà, il y a une démarche de veille, et puis il y a aussi, quand on programme des choses qui nous parlent évidemment en tant que programmateur, mais on pense aussi au public qu'on souhaite faire venir. Le festival Handit Lab, il est ouvert pour toute la famille aussi. Il est aussi transgénérationnel. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de chercher des choses qui peuvent s'adresser à tout le monde, au plus grand nombre en tout cas.
Et du coup, est-ce que c'est facile de trouver tous ces groupes, concerts, expositions ?
Alors, c'est facile parce que c'est un métier plutôt très agréable, on va pas se mentir.
Non, mais pour le festival, par exemple, tu vois que, par exemple, il y a des groupes comme Léonie, comme il y a plein de groupes comme ça. Est-ce que du coup, les groupes, par exemple, les grands groupes répondent facilement du coup à cette proposition ? Alors, est-ce qu'ils connaissent le festival Handit Lab ou est-ce qu'ils répondent parce que tu les contactes ? Ou est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ce festival ?
Ça dépend vraiment. Sur Nantes, le festival aujourd'hui, il a 37 ans, il est connu à minima, voire reconnu du réseau professionnel. Il n'y a pas de souci, on nous connaît, etc. Au niveau national, quand je vais chercher des groupes, certains nous connaissent, d'autres pas du tout. Pas encore, donc ça dépend. Après, comment s'opère le choix définitif ? C'est plusieurs choses. C'est le budget, c'est la disponibilité. Est-ce que le groupe est disponible aux dates du festival ? C'est plusieurs choses comme ça. Est-ce que aussi, c'est techniquement, on peut l'accueillir ? On fait un festival sous chapiteau, il y a des groupes qui seraient, je ne sais pas, moi je pense à des groupes où ils peuvent être très nombreux sur scène, où ça peut être compliqué de les accueillir. Donc c'est... ce que je veux dire, il y a toujours le premier pas, c'est de contacter les artistes parce qu'on aime bien ce qu'ils font. On pense qu'ils peuvent correspondre au festival. Et puis après, il y a une phase de négociation entre le budget, la date, les conditions d'accueil technique, c'est-à-dire est-ce que c'est faisable. Et puis après, voilà. Donc, pour arriver au programme définitif, non, cette année, je n'ai pas fait le compte, mais j'ai peut-être contacté trois fois plus de groupes.
Et du coup, quels sont les dispositifs d'accessibilité pour le Festival Handit Lab du coup ?
Alors, ils sont variés. On propose pas des dispositifs d'accessibilité pour tous les types de handicap, pour tous les spectacles. Mais sur l'ensemble du festival, on essaye de proposer l'accessibilité sur l'ensemble du festival. Donc, on propose de l'audiodescription, je l'ai dit, sur le concert à Trampo. On propose donc un spectacle qui est naturellement signé, qui est le spectacle Les Atypiques. On propose les gilets vibrants. Donc, à l'origine, pensez à la destination des personnes mâles ou non entendantes, mais ce n'est pas exclusif. Donc, sur les concerts de Léonie et Bob's Not Dead. On propose aussi pour l'accessibilité physique sur le site du festival, donc on déploie le dispositif du tapis roule. C'est un dispositif qui se voit beaucoup en festival. C'est un tapis qui se met au sol, qui permet de venir corriger les aspérités d'un sol accidenté. C'est typiquement quand on est en extérieur, pour permettre la meilleure circulation des fauteuils notamment, mais aussi pour ne pas s'entraver les pieds tout simplement. La chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles et qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont soit des professionnels, soit des gens sensibilisés, soit des gens concernés par le handicap. Et donc, ils peuvent être en capacité soit de signer, soit de guider, par exemple. Et puis après, on adapte nos supports de communication aussi. En FALC, donc en facile à lire et à comprendre, en braille, en support audio. Et alors, cette année, on a eu un contretemps, mais depuis historiquement, en vidéo LSF aussi.
Et du coup, voilà, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des choses qui étaient gratuites. Donc, du coup, le Festival Handiclap, du coup, est-ce que toutes les concerts sont gratuits ou est-ce qu'il y a des choses qui sont payantes? Est-ce qu'il faut réserver? Comment ça fonctionne, du coup?
C'est une très bonne question. L'exposition dont je parlais est gratuite. Les animations, l'accès au festival est gratuit. Donc, on peut venir sur le festival, profiter du bar, profiter des animations extérieures. Ça, il n'y a pas de souci. Les concerts et spectacles sous chapiteaux sont payants. Les spectacles vont de 8 à 12 euros sous chapiteaux, les concerts de 15 à 20 euros. Et il y a deux tarifs particuliers, ce sont les tarifs de nos partenaires. Donc le concert à Trempeau est en tarif unique à 8 euros, Oculus au passage Sainte-Croix est en tarif unique à 6 euros. Je rajoute une chose, le bain sonore, il est aussi en tarif unique à 6 euros. La billetterie ouverte, elle est disponible en ligne sur le site internet du festival, donc handiclap.fr. Mais il y a une billetterie, il y aura une billetterie sur place aussi, évidemment.
Et y a-t-il des accompagnements spécifiques pour les personnes qui auraient besoin?
Alors, on est tout à fait. Il y a deux cas de figure, on va dire, les publics autonomes qui se présentent au point info ou à la billetterie. S'ils peuvent, qu'ils nous préviennent avant, notamment s'il y a des besoins très spécifiques. Mais on a les bénévoles qui sont là sur place pour répondre aux besoins. Et puis après, il y a les cadres de venue de groupe, où là, moi, ce que j'encourage à faire, c'est me contacter pour qu'on organise une venue de groupe. Mais on est tout à fait. On part toujours des besoins de la personne. Si la personne a besoin d'être placée sous chapiteau spécifiquement, on est là pour y répondre. On est aussi tout à fait sensibilisé au fait qu'une personne peut avoir besoin de sortir. Il n'y a aucun souci avec ça. Et on essaye aussi de proposer des espaces de détente, de relaxation et de calme.
Alors, comme le festival Handiclap est un événement inclusif et qui commence à être de plus en plus connu, as-tu des contacts avec d'autres villes ou d'autres festivals pour des échanges d'expériences?
De plus en plus, tout à fait. C'est une très bonne question. Alors déjà, sur Nantes, je sais que tu le sais, Anthony, on est un petit réseau informel, donc j'en parle pas plus parce que pour l'instant, c'est très professionnel, on va dire. Mais de presque une vingtaine de structures sur Nantes à se réunir régulièrement pour parler tant de l'accessibilité du public que de faire la promotion d'artistes en situation de handicap, enfin voilà, pour partager des bonnes pratiques, etc. Donc ça, c'est très dynamique, hein. Nantes, Nantes et périphérie, puisque il faut pas oublier la soufflerie qui est basée sur Rosé et qui est très qui est très impliquée. Et au niveau national, de plus en plus. Je suis notamment en contact avec le festival Au Foin de la Rue qui est basé en Mayenne. Alors je m'en veux parce que c'est un petit village à l'année et je retiens jamais le nom du village, mais Au Foin de la Rue est un festival assez connu et qui fait énormément pour l'accessibilité. L'entièreté de leurs concerts, c'est un festival de musique, l'entièreté de leurs concerts sont audio décrits. Ils proposent du chant signe autant que possible. Et on échange beaucoup. J'ai bon espoir cette année d'aller les rencontrer. C'est en juillet, de mémoire, début juillet. Et de plus en plus de festivals s'engagent. Hein. Je pense aussi sur Saint-Nazaire, le VIP avec les escales qui aussi développe de plus en plus l'accessibilité. Et puis, il y a aussi, ça c'est très intéressant à mettre en avant, du côté du spectacle vivant. C'est pas si loin de Nantes que ça. Depuis 2021, le ministère de la Culture a créé un nouveau label, hein, c'est-à-dire un lieu reconnu par le ministère de la Culture, et a donné au Théâtre Sioux à Morlaix, en Bretagne, le label Centre National de la Création Adaptée. Donc c'est très 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 intéressant, c'est qu'on a un théâtre national reconnu par le ministère de la Culture pour la diffusion. du théâtre et de la danse, mais aussi pour la formation et l'accueil en résidence et l'accompagnement des artistes qui mènent des projets inclusifs. Donc il y a de plus en plus d'initiatives et d'initiatives qui rayonnent au national, qui se mettent en place. Après, on en a encore pas mal au début, mais ça existe de plus en plus.
Et combien de temps ça prend pour organiser un festival comme Handiclap ?
Alors, c'est quasiment parce que l'équipe du festival, pour pas mentir, l'équipe dédiée au festival est assez petite. Après, on a le support de la page, hein, la page qui est une grande structure sur le département. Mais c'est presque un travail à l'année, pour moi en tout cas. Après, je suis soutenu en proximité par ma collègue Elodie, que je salue, qui est chargée de communication de la page, qui travaille en binôme avec moi sur le festival. Et à l'année, on est soutenu, on recrute deux personnes en service civique. Donc Anna, qui est avec nous dans les studios, mais qui ne prend pas la parole, qui fait des photos parce qu'elle est sur la communication, et Loelia, et qui sont avec moi pendant 8 mois. Mais par exemple, pour tout dire, j'ai déjà, alors là, comme le festival il est à la fin du mois, je suis que sur le festival de cette année, mais j'ai quand même un peu la tête à l'édition de l'année prochaine, bien sûr.
Eh bien, on va écouter un morceau de musique et puis après, c'est Alice qui prendra la suite de l'interview et on parlera du coup du projet Oculus avec Cyril, Léa et Guillaume. Donc, on continuera avec le festival Handiclap. Donc, on écoute un morceau de musique. Alors, Nelson, qu'est-ce qu'on va écouter ?
Du coup, on va écouter des morceaux du groupe de Cyril qui est ici présent. Est-ce que Cyril, tu veux présenter ton groupe ?
Alors, le groupe existe depuis maintenant 3 ans. On a commencé, on s'est côtoyé au festival des Rendez-vous de l'Erdre, festival que vous connaissez tous, j'imagine. Et on a sympathisé et on a eu cette idée de faire des prestations dans le noir. Petit à petit, on a même fait, je vous en parlerai tout à l'heure, des prestations même dans des écoles de musique. Entre ces concerts, entre ces interventions, on a fait un petit album un peu représentatif de ce qui sont des petites improvisations spontanées, c'est-à-dire des choses qui sont, c'est de la composition spontanée, des choses qui viennent un petit peu sur le moment, qu'on a pu mettre en forme, et on a fait ce petit disque de 10-12 titres. Et voilà, vous allez entendre aujourd'hui, à l'heure où ce sera diffusé, vous allez entendre des extraits de cet album. Alors le premier extrait, on l'appelait Bois Sacré, je crois. C'est en hommage à tous ces... Le Bois Sacré, c'est un lieu méconnu en Afrique, un lieu vraiment très reculé. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'Afrique, mais c'est un lieu... Je ne suis pas allé, mais c'est un lieu vraiment très intéressant et très énigmatique.
On écoute Bois Sacré. Thank you.
Access, de midi à 13h, sur Prune.
Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes donc toujours sur Prune 92 FM dans l'émission Access. Et du coup, on parle toujours du festival Handiclap avec mes invités. Donc, Guillaume Brochet, qui est donc coordinateur du festival Handiclap. Léa, qui est donc chargée des publics et des partenaires à l'espace Sainte-Croix. Et Cyril Trochu, qui est artiste dans un projet du festival Handiclap dont on va parler tout de suite avec Alice. Donc, je donne la parole à Alice qui va interviewer Cyril et Léa pour le projet Oculus. Alice, je te donne la parole.
Merci Anthony. Donc Léa et Cyril, pouvez-vous nous présenter le projet Oculus?
Cyril, je vais te laisser présenter.
Oui, ça sera plus effectivement. Surtout, ouais. Alors le côté Alors Oculus, on a trouvé ce nom-là. Effectivement, c'est une marque de, comme je disais hors antenne tout à l'heure, Oculus, c'est une marque de lunettes à réalité augmentée, comme tout le monde. Lunettes virtuelles, comme tout le monde, si vous regardez sur internet, c'est vraiment une grosse marque. Donc, on a fait concurrence à ce nom-là. On le voit pour les référencements, c'est absolument difficile. J'ai connu Florian au Rendez-vous de l'Air il y a 3 ans, et donc on s'est côtoyé là, cette occasion-là. On a fait des enregistrements, et ensuite on a eu l'idée d'enregistrer ou de jouer dans le noir. Il a eu l'idée de se mettre en situation vraiment. Ce qui est difficile, d'être dans le noir complet. Et donc là, il a perçu effectivement ce que moi je perçois, puisque moi j'ai fait aussi beaucoup de spectacles théâtraux, notamment aussi. J'ai participé à un spectacle sur Lewis Carroll. Donc il a perçu la difficulté qu'on avait, nous, à se repérer dans l'espace. Et c'est une contrainte supplémentaire qui aide beaucoup à la concentration. Et en fait, il a constaté, en fait, ça a vraiment changé sa méthode de travail, et ça a vraiment participé aussi à changer, à se remettre en question, à changer sa méthode de travail. Et c'est déstabilisant, mais ça lui a vraiment permis de se reconcentrer, de travailler, de voir son instrument différemment. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de monter Oculus. On a commencé par faire des concerts et des animations avec des classes de CM1, CM2 à Vertoux. Les choses sont très bien passées. On a vraiment. Puis les enfants sont vraiment spontanés. On avait des entretiens avec les enfants à l'issue de la séance. Et donc, c'était vraiment concluant. Et donc, on a continué. On a eu des subventions. Donc, ça nous a permis de continuer à tourner dans la région. On a d'ailleurs fait des médiathèques. On est allé jouer pas très loin dans une médiathèque à proximité de Nantes. Donc, on est régulièrement appelé, et donc les gens qui viennent nous voir sont vraiment très étonnés de ce qui se passe. Et c'est vraiment une expérience immersive, puisque les gens, il y a une rencontre avec ces personnes, le public à la fin, parce que les gens sont vraiment complètement dans le noir. On les fait rentrer dans le noir, et ils sont obligés d'écouter vraiment différemment. On en parlera sur le fait que le mélange des timbres, le fait que les timbres se mélangent énormément. Donc on imagine, on a un imaginaire qui travaille, qui fonctionne. Donc on compare tel timbre par rapport à tel autre. Et donc ce qu'on a constaté, c'est que l'expérience était souvent couronnée de succès. Et donc voilà, c'était plutôt convaincant.
Et du coup, pour la partie du passage Sainte-Croix, nous, cette année, on accueille Oculus dans le cadre du festival Handiclap. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est partenaire du festival. Et là, on a vraiment choisi ensemble de pouvoir accueillir Oculus, justement parce qu'il y a besoin de cette boîte noire voilà, qui n'est pas forcément facile à réaliser sous le chapiteau. Et nous, on a eu un vrai coup de cœur pour le spectacle, pour la promesse. Donc, on recevra le public dans le noir. Et après, donc, il y a un bord plateau, effectivement, où Cyril et Florian pourront partager un retour sur expérience avec le public juste après le spectacle.
Oui. Ce qui est particulier, c'est que je ne vais pas tout dévoiler. Je vais pas. On est trois sur scène, puisqu'on est deux musiciens et il y a une agence, une intelligence artificielle qui. Il y a un troisième élément dont vous verrez, je vous laisse la surprise, qui interagit avec nous.
Et en fait, Cyril et Léa, comment s'est fait votre rencontre à tous les deux?
Je crois que c'est via Monsieur Brochet ici présent, Guillaume Brochet, non, c'est pas...
Si, c'est ça, hein, sur le principe. Alors, si on est très honnête, Cyril et moi, on s'est rencontrés dans le studio là, il y a une demi-heure. Mais il a déjà rencontré, par contre, ma collègue Raphaël qui a programmé le spectacle. Mais effectivement, c'est par l'intermédiaire de Guillaume. Ouais,
ouais, moi le projet de Cyril et Florian Oculus, on m'en a parlé il y a un peu plus d'un an déjà via le Panonica. Je sais aussi que le projet, il avait joué aux ateliers de Beach.
Aux ateliers Beach, ouais, c'est ça, effectivement. Voilà. Oui.
Et moi, c'est un projet que je m'étais bien noté. Ça répond aux questions que me posait Anthony tout à l'heure sur la programmation. Mais avec l'incapacité, disons que sous chapiteau, déjà faire un noir complet sous chapiteau, c'est pas très facile. Et puis un chapiteau n'est pas isolé phoniquement. Or, je pense que, enfin, c'est un projet, tu me dis, hein, si je me trompe, Cyril, mais c'est un projet qui nécessite de ne pas avoir forcément de bruit parasite.
Oui, c'est ça, qui nécessite une écoute.
Et c'est vrai que, déjà, comme je vous l'ai dit, hein, sur le passage, à côté des chapiteaux, il y a l'éléphant. Et des fois, l'éléphant, il barille. Rien que ça. Et du coup, moi, alors, je sais qu'il y a dû avoir un contact entre Cyril Florian et le passage Sainte-Croix. C'est Raphaël du passage Sainte-Croix qui m'a appelé. On a effectivement déjà été partenaire avec le passage Sainte-Croix et qui me parle de ce projet. Je lui dis, j'aurais pu être très mauvais en négociation. J'ai dit, je veux pas en savoir plus. Moi, je suis pour. On y va, on le fait. Voilà.
Alors Cyril, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Oculus ?
Ben, on vit dans un monde majoritairement, vous savez, concentré sur l'image. L'image, c'est très important, la manière dont on s'habille, on a des spots publicitaires en permanence, on est pollué par des tas d'images en permanence, et on a peut-être tendance... pour certains, à oublier d'écouter, à oublier les autres sens. Et donc, ce qui m'a paru évident à moi, mais peut-être effectivement, c'est que la priorisation de l'image sur le reste était vraiment importante et que ça a pu, à certains moments, occulter ce qui était l'écoute. D'ailleurs, on a fait ce genre d'expérience avec des écoles de musique, à Vertou. On a vraiment constaté que les gens se retrouvant dans le noir, c'était un orchestre de cuivre, c'était un big band, et j'ai vraiment constaté que les gens se retrouvant dans le noir sont beaucoup beaucoup plus à l'écoute que si vous avez les mêmes personnes concentrées sur leur partition, sur leur béquille, et qu'il y a vraiment quelque chose, une écoute supplémentaire, une ambiance supplémentaire dans le noir et une attention apportée à l'autre. Ça, c'est vraiment important, c'est ce que j'ai constaté en tout cas.
Alors, comment faire si on souhaite assister à ce concert ?
Alors, pour assister au concert, donc c'est un concert, comme je répète ce qu'a dit Guillaume, qui a un prix unique de 6 €, et donc il est sur réservation. On peut ou bien passer par le site de Handiclap pour retrouver toutes les informations au même endroit, mais aussi sur le site du Passage Sainte-Croix, passagesaintecroix.fr, où on retrouve le lien de réservation. Et je peux aussi préciser donc, que le concert a lieu le samedi 30 mars au Passage Sainte-Croix. Et le début du concert est à 19 h, mais donc on invite les spectateurs à venir un petit peu avant pour écouter les consignes qui seront données par le groupe.
Y a quelqu'un qu'on n'a pas présenté, je me permets d'insister, c'est Philippe Harbert, qui est notre technicien, technicien, qui prépare le noir, parce que ça se prépare souvent la veille, enfin, ça dépend des conditions, et sans qui on ne pourrait pas travailler.
Oui, tout à fait. Il vient tout le samedi avant faire le noir. Ouais. Chez nous, ça va être un gros travail que nous, on n'avait jamais envisagé, de faire un noir complet comme ça, c'est sans un rayon qui passe à travers.
C'est d'ailleurs l'une des difficultés d'ailleurs auxquelles on s'est confronté quand on cherchait des contacts, c'est que c'est très difficile. Ça demande des moyens parce que c'est très difficile dans certains locaux de faire des noirs complets parce qu'il y a toujours des fenêtres, des hublots, il faut tout occulter. Et donc, c'est la difficulté qu'on a rencontrée très souvent.
Alors, pour tous les trois, est-ce que vous observez des changements de regard et de mentalité sur l'accessibilité et l'handicap?
Pour le passage Sainte-Croix, en tout cas, à notre échelle, on s'en rend compte effectivement, rien quand on parle avec d'autres acteurs culturels de la ville, on voit bien que c'est un questionnement, en tout cas, qui résonne chez beaucoup, qui a des efforts qui sont faits par beaucoup parce que, par souci d'inclusivité et de rendre accessible toute forme de culture, quelle qu'elle soit, au plus grand nombre. Donc, si l'accessibilité n'est pas encore à 100% faite partout, elle est un questionnement qui résonne dans beaucoup d'endroits, oui, je trouve.
Moi, j'avais une pensée aussi, en dehors du cadre d'Handiclub, c'est qu'il faudrait, si on peut plus visibiliser tout ce qui est handicapé au cinéma, par exemple, dans des films. Après, ça dépend des gros budgets, des grosses compagnies de cinéma. Il faudrait qu'on soit encore plus visible qu'on ne l'est. Mmh. Et ça, c'est une évidence. Mais après, ça nous échappe bien un sûr. Peu. C'est autre chose. Ah, c'est ouais, un autre ressort.
C'est vrai que mon rêve, ce serait vraiment de voir des vraies personnes handicapées en fauteuil ou non-voyants ou autres qui jouent vraiment le rôle que de mettre un acteur qui va imiter. C'est ça. Et des fois, c'est pathétique. C'est ouais.
Ce qui est... Là où c'est, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je rejoins aussi Léa sur ce que Léa vient de dire. Alors c'est sûr que c'est pas le secteur du cinéma. Là, on parle plutôt des structures culturelles de proximité subventionnées, où déjà c'est plus du tout vécu comme une contrainte. Où je pense que ça a pu l'être un certain temps par les lieux en mode il faut répondre à des normes. Là, voire même l'accent, il est dire il y a des normes. Mais est-ce que les normes, est-ce qu'elles sont suffisantes en fait? La plupart des acteurs avec qui on travaille au festival se posent la question au-delà des normes. Il y a aussi beaucoup d'humilité aussi. Aujourd'hui, c'est admis qu'on se rend pas accessible tout seul dans notre coin. On travaille avec des associations, on travaille avec les personnes concernées, on travaille entre acteurs. Quand on fait des erreurs ou qu'on se trompe, on le dit. Et qu'on apprend ensemble. Donc ça, il y a une vraie belle évolution, je trouve, là-dessus. Sur la question de visibiliser les artistes en situation de handicap, et puis même de permettre à des jeunes en situation de handicap de se permettre des parcours artistiques. Si pareil, le sujet aujourd'hui n'est plus du tout tabou, et le tabou, je sais que le sujet est discuté au niveau du ministère de la Culture, le chemin est encore long, je pense. Parce que ça induit aussi de rendre accessibles certaines formations artistiques. Et puis peut-être, pour certains parcours d'artistes, dès l'école, de permettre qu'un jeune en situation de handicap se sente autorisé à le faire. Il y a encore du chemin, ouais.
Moi, je parlais, pas que dans le cinéma, mais dans l'espace audiovisuel en général,
ouais. Oui, et puis c'est l'artiste, mais c'est aussi, tu abordes le sujet, mais on va être rapide là-dessus, Cyril, mais c'est aussi la représentation régionale. Oui, ça pourrait aussi être, une personne, un présentateur télé, une présentatrice télé, tout à fait.
Peut-être que demain, on verra Anthony présenter le journal de TF1, pourquoi pas. Je peux rêver. Bon, autrement, Guillaume, as-tu des retours du public sur le festival Handiclap?
Oui, alors c'était l'année dernière, je ne sais plus en tête. On en a sur l'expo, pas mal, parce que comme dans beaucoup d'expositions, on propose ce qu'on appelle un livre d'or. On a des retours assez positifs, parce que ce qui est intéressant aussi, une partie du public qui vient au festival n'est pas un public qui sort souvent, qui fréquente souvent l'offre culturelle. Du coup, il y a souvent parce que par le passé, dans un précédent métier, j'ai pu travailler avec du jeune public, etc. Ce qui est très intéressant avec des publics ce sont des publics de découvreurs et de découvreuses. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme, en fait, à découvrir les choses. Et il y a aussi des publics qui sont autorisés à dire, c'est super, mais j'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave, parce qu'on en discute. C'est pas trop mon genre de musique. Mais c'est super intéressant, parce que c'est des publics vraiment à la découverte. Donc, ça crée vraiment des beaux échanges, ouais.
Alors, Guillaume, recherches-tu encore des bénévoles pour le festival ?
Alors, on est pas mal, on est bien en bénévole. Et d'ailleurs, ça me permet de remercier énormément tous les bénévoles, puisqu'il faut savoir qu'on a une grosse équipe de bénévoles qui nous aide au montage et au démontage des chapiteaux, bien entendu, avec nos partenaires de Quai d'Échappe. Hein. C'est avec eux qu'on monte les chapiteaux. On a beaucoup de bénévoles pendant le festival, hein, donc au bar, à la billetterie, à l'accueil. On parlait de guidage tout à l'heure, etc. Là, on est bien. Là, on est bien. Ça peut valoir le coup de nous faire un petit mail au cas où, parce que comme c'est du bénévolat et c'est normal, une personne peut être indisponible au dernier moment, bien sûr, on le sait. Mais pour l'instant, ça va.
Comment on contacte le festival Handiclap pour... être bénévole ou pour avoir plus d'informations ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, on est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, X maintenant, comme on dit, et même LinkedIn. On a un site internet, donc www.handitlap.fr. Et vous pouvez nous envoyer un mail à festival-du6handitlap@apaj.org.
Eh bien, merci Alice et merci Guillaume, Cyril et Léa d'être venus sur l'antenne de Prune. Guillaume, pour nous parler du Festival Handiclap et pour nous parler de ce superbe projet, la Oculus, qu'on pourra voir. Donc le Festival Handiclap, je le rappelle, c'est du 28 au 31 mars. Et le festival et le projet concert Oculus, ce sera donc dans le cadre du Festival Handiclap aussi, le samedi 30 mars à 19h. Alors, il faut venir un petit peu avant. Combien de temps il faut venir avant ?
15-20 minutes, c'est l'idéal.
Donc, venez 15-20 minutes avant, 19h, pour pouvoir assister au projet Oculus, donc qui est un concert dans le noir, le samedi 30 mars. Au passage Sainte-Croix. Donc, merci à Léa, Cyril et puis Guillaume d'être venus.
Merci à vous.
Merci.
Je donne la parole à Alice pour sa chronique sur les Battle Hip Obsessions auxquelles elle a assisté avec d'autres personnes non-voyantes.
Merci Anthony. Donc, j'étais dans le groupe des personnes non et malvoyantes de ce samedi 2 mars au lieu unique et nous avons pu suivre les battles de danse obsession et qui se fait avec Pika Production qui les organise et qui nous organise aussi nous un temps d'accompagnement, d'explication, parce qu'on a un atelier en début d'après-midi où là, on nous explique l'histoire des danses, comment elles ont été créées et découvertes jusqu'à aujourd'hui. Et les différentes...
différentes figures en fait.
Merci,
en plus des codes du battle et de l'historique du hip-hop, on a aussi une explication des différentes figures pour pouvoir après quand ça, parce que on précise que ce spectacle, je voulais laisser Alice le dire, mais que les battles sont audio-décrites pour les personnes malvoyantes. Donc lors de cet atelier, on a les figures pour pouvoir après quand c'est audio-décrit lors des battles, savoir un peu à quoi ça correspond.
Donc après, ensuite, on est guidé jusqu'à la grande salle dans le lieu unique où se passent les battles, où il y a comme un harem et il y a un endroit pour les DJ, un endroit pour les danseurs qui s'appelle
Le Cypher.
Le Cypher est l'endroit où on a les deux personnes qui sont maîtres de cérémonie aussi et le jury, parce que le jury est de 5 personnes et comme c'est un festival qui est international, même mondial, parce qu'on peut avoir des danseurs espagnols comme français. Et là, ce soir-là, nous avons pu découvrir la finale de trois équipes Donc, il y avait les Big Girls, les 3 contre 3 et le...
Oui, donc on a découvert en fait les différentes finales. Alors effectivement, il y avait différentes crews, donc des différentes familles de danseurs et danseuses. Hein, et, non, je me souviens, désolé, je ne me souviens pas de la troisième groupe. Mais enfin, en tout cas.
En fait, le troisième groupe, il y a un danseur qui est destiné comme être le king, qui est choisi pour être le king, et il doit danser avec... Il doit danser contre les 6 autres personnes. Donc, soit lui, il gagne les 6 passages, ou possible que ce soit un des autres danseurs qui y va gagner. Et le plus qu'à gagner, à la finale, devient le king du... Alors, je ne sais plus trop le nom. Ça, voilà. Et effectivement, nous, on avait les casques sur les oreilles, et on avait 2 charmantes personnes... Marion et Manu qui nous décrivaient, et comme elles le faisaient, on avait une qui décrivait le participant de gauche sur le terrain de danse, ou celui qui est Marion, celui de droite par exemple, et on savait qui dansait entre chaque adversaire. Anthony, tu étais là aussi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben moi j'étais présent et j'ai trouvé ça bien, très intéressant. Ça fait plusieurs années qu'on participe. Et alors je me souviens plus du nom de cette nouvelle discipline, mais la discipline dont vient de parler Alice, là du coup c'était une toute nouvelle, c'était tout nouveau cette année. Dans le, voilà. C'est la discipline où Alice parlait du king là, qui rencontrait les différents danseurs, et puis que voilà, il devait faire 6 passages, et puis c'était celui qui réussissait le plus de passages qui gagnait en fait.
Alors c'était le 7 to smoke. Alors je suis mauvais anglais, mais c'est ça.
Voilà, c'est comme ça que s'appelle cette discipline, oui.
Ouais. Puis après, après quand ça a été fini, nous on est parti, mais après suivez de la musique, et voilà, il y avait toujours des festivités lorsque nous sommes partis du lieu unique à minuit et demi.
Et c'est vrai qu'on a vraiment passé une super soirée. Et ouais. Moi, ça fait depuis plusieurs années qu'on participe au Battle of Obsession grâce à l'équipe de Pickup Production, grâce à l'équipe de Pickup Production. Et c'est vraiment incroyable, du coup, de pouvoir assister, parce que c'est très visuel, mais grâce à l'audiodescription et grâce à l'atelier qu'on a l'après-midi, eh bien, du coup, vraiment, on peut participer comme tout, quand on est non-voyant ou malvoyant, eh bien, on peut participer comme tout à chacun au Battle. Et c'est vraiment, il y a une super ambiance, et vraiment, c'est vraiment à faire. Quoi. Eh bien, c'est fini. T'as fini, Alice?
Oui, j'ai fini.
Eh bien, merci Alice pour cette chronique. Eh bien, voilà, l'émission Access se termine. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu, nous, de plaisir à l'animer. Le prochain Access, ce sera le 18 avril de midi à 13h. Donc, je remercie Nelson à la réalisation, qui a réalisé cette émission. Je remercie Alice qui a co-animé Access avec moi. Je remercie nos invités. Donc, il y avait... Guillaume Brochet, coordinateur du festival Handiclap. Il y avait donc Léa, qui est donc chargée du public et des partenariats à l'espace Sainte-Croix. Et Cyril Trochu, qui est artiste au festival Handiclap. Ils nous ont parlé donc du festival Handiclap. Donc le festival Handiclap, je le rappelle, qui aura lieu du 28 au 31 mars prochain. Et le projet Oculus, dont on a parlé en deuxième partie, aura lieu, lui, le samedi 30 mars à 19h à l'espace Sainte-Croix. Et comme le disait tout à l'heure Léa, il faudra, si vous voulez vraiment assister au début, il faudra venir un quart d'heure, 20 minutes avant pour bien pouvoir assister au début. Ne manquez pas l'émission Curiosité de 17h30 à 18h30. Et du coup, nous, on vous laisse avec les programmes de Prune. Excellente journée à l'écoute de Prune.
Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.